Vous avez coupé, vous avez, après le point, vous avez deux trèches. Suivez sur le texte, hein. Deux trèches. Tu n'as pas le texte, toi?
Non,
ça. Tu lis pas l'erreur? Ça fait rien. Essaye. Tiens, prends le texte. Alors, c'est un rabbin. Ça veut dire nos maîtres ont enseigné. Vous voyez, Tanou en araméen, c'est Chanou en hébreu. Ok? Alors, Tanou Rabbanan, nos maîtres ont enseigné. Alors, suivez bien et ne perdez pas de temps à écrire pendant que vous lisez. Léolam, dans tous les cas, Léolam, suivez mot par mot. Ça se passe sur le texte. N'écrivez pas, suivez. Léolam, dans tous les cas, toujours, Yadou Adam, l'homme, chacun doit habiter Yadou. Mais quand je finirai la lecture de la Mishnah, je vous expliquerai pourquoi c'est ce mot-là qui est employé pour dire habiter. Il y a 12 Adam. Be'eret Israël, vous avez Aleph Yud, hein? C'est Be'eret Israël. Afil, même Be'il, dans une ville, chez Rouba, dont la majorité, Ovdei Kochavim, est habitée par des idolâtres. Ve'al Yadou, et il ne doit pas habiter. Bechoul, Mazechoul, Koutlaaret, Ve'afilou, et même Be'i, dans une ville, chez Rouba Israël, qui est habitée en majorité par des Juifs, par Israël. Et, alors, avant de voir la suite, je vous explique le mot qui est en place. Ici, c'est une Baraita, donc il y a une autorité équivalente à une Mishnah, donc c'est une halakha très importante, que dans tous les cas, il faut habiter en Eretz Israël, même dans une ville habitée en majorité par des idolâtres, par exemple dans un kibouch, la Shomer HaTzair, et pas habiter en Koutlaaret, même dans une ville habitée en majorité par des chassidim. Vous voyez la halakha. Donc, bon, j'ai blagué un peu, je veux dire, si d'ailleurs la Gemara a dit, enfin la Breita a dit, même dans une ville habitée par des idolâtres, ce fameux argument des religieux anti-sionistes, qu'en Israël, il y a une majorité de juifs pas pratiquants, même des goyim idolâtres, il vaut mieux habiter chez eux en Eretz Israël que d'habiter chez Israël en Israël. C'est clair.
Il y a pas ça qui
n'est
pas des.
Non, j'ai dit même en Chouzlaaret chez les chassidim. Chez Rouvam Israël. Les chassidim, c'est Israël. C'est des juifs.
Pourquoi,
tu ne suis pas, tu ne comprends pas.
C'est quoi le terme de l'intérêt, c'est d'accord.
Alors reprends le texte. Ah, tu voulais dire la chambre de la c'est dire chassidim. Bon, non, reprends le texte. Alors, reprends le texte toi-même. Tanou Rabbanan. Et voilà,
il y a donc Adam,
Israël. Ken. D'accord, Rabbi. Alors, Rabbi, qu'est-ce que ça veut dire? Les voilà.
Toujours.
Yadour.
Yadour Adam. L'homme doit habiter.
Oui, habiter.
En
Eretz Israël. En Eretz Israël. Que l'homme habite. Hein, il faut. C'est en Eretz Israël. Afilou, même.
D'ailleurs, chez Rouba,
dans une ville. Chez Rouba, dans la majorité. C'est en Eretz des idolâtres. Ok, continue. Vers Yadour.
Là, il y a de l'eau, mais au coup, cela arrête. Et ne pas habiter en coup, cela arrête. Là, puis l'eau, Baïr, Chéroba,
Israël. Baïr, pas Baïr.
Baïr, Chéroba, Israël.
Chéroba, Israël. Vous avez compris? Oui. Même si c'est les résidus. Bon, je vous avais cité ça à propos de quel verset dans la Gata de Pessah? Doux et court, vous vous plaît? C'était qu'un Mishnah de la Gada de Pessah. Non, pas Yitzhak. C'est juste à côté, mais c'est pas Yitzhak. Qui est le fils d'Isaac? Oui, alors à quel propos?
Ah oui, il est descendu en Égypte et
alors, c'est pour lui. Juste après. Vayere Mitzrayma, là, Goucha, vous rappelez?
Ah oui, résider
par. Ah, oui. Résider, alors, le mot de je vous rappelle l'explication, le verbe dour, qui veut dire habiter, c'est habiter de façon fixe. L'habitation principale, se considérer chez soi. Quel est le mot en hébreu qui veut dire une maison avec la même dira. La dira, ok. Oui. Alors que la cour, c'est séjourner comme un étranger. Vous voyez le mot guerre qui signifie étranger. Okay. Alors la Gada, en parlant de la descente de Jacob en Égypte, dit, le verset dit, va yered Mitzrayima la gour sham. Vous vous rappelez de cela? Il est descendu en Égypte pour y séjourner là-bas. Et la Mishnah dans la Gada de Pessah explique, Melamed, Shelo Yara, Yaakov Avinu, le Vishtake Arsham, et là la gour sham. Ça nous apprend que quand Jacob est descendu en Égypte, c'est pas pour se fixer là-bas, mais pour séjourner jusqu'à ce qu'arrive le temps du retour. Vous vous rappelez de donc, ce que nous allons étudier dans cette Mishnah, dans cette Braïta, et qui, à force de loi, qui est une halakha, n'a force de loi que dans le cas de quelqu'un qui yadour bechutz la'aretz, qui habite en chutz la'aretz en considérant que c'est lui en chutz la'aretz. Celui qui habite en chutz la'aretz, pour quelque raison que ce soit autorisé par la halakha, mais que c'est sous la forme de la cour, il séjourne provisoirement, bien sûr, n'est pas dans ce cadre ce que dit la Braïta. Vous comprenez pourquoi je dis ça, okay? Alors, je continue la traduction. Shekol, hier, on était arrivé chez Rouba Israël. Shekol Hadar Be'eret Israël, parce que tout celui qui habite Eret Israël, Dome Kemi Sheyeshlo Eloka, ressemble à quelqu'un qui a un Dieu, Vechol Sheeno Dar, Vechol Hadar Bechutz La'aretz, suivez, et tout celui qui habite en Chutz La'aretz, Dome Kemi Sheeno Eloka, ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Chez Neymar, d'après un verset, dont vous retrouverez la référence vous-même, ce soir on n'a pas trop de temps, il y a un texte que l'on va voir, c'est dans Vaïkra, c'est-à-dire dans le Lévitique, chapitre 25, vous rechercherez le verset, tout à l'heure à la fin du cours, vous donnerez un Vaïkra pour le verset, mais notez la référence. Il y a un verset où Dieu s'adresse à Israël au moment de la sortie d'Égypte, je suis qui suis celui qui vous est fait sortir d'Égypte, alors suivez le texte, la tête la chème et terez Knaan, pour vous donner le pays de Knaan, qu'est-ce que le pays de Knaan? Donc, pour Israël, l'Iyot la chème et l'Okim, pour être pour vous un Dieu. C'est clair? Alors, quel est le raisonnement? Si vous êtes dans le pays de Knaan, je suis votre Dieu. Si vous n'êtes pas dans le pays de Knaan, je ne suis pas votre Dieu. Est-ce que c'est clair? Et vous verrez d'ailleurs Rashi sur ce verset. Remarquez, il nous suffirait d'étudier que ce verset pour tout le sujet que nous avons par rapport à la Shoah. Si Israël est dans le pays de Canaan, alors Hachem est son Dieu. S'il n'est pas dans le pays de Canaan, eh bien il n'est pas son Dieu. Vous comprenez comment tout le sujet que nous avons étudié cette semaine est dans ce verset. C'est clair? Et seulement, étant donné qu'il y a nécessité pour telle ou telle époque de l'histoire et dans les conditions que nous étudions chaque fois de redescendre en exil, alors pour pas que Israël soit sans protection divine, il y a une protection particulière dans le temps d'exil nécessaire, mais qui ne peut pas aller au-delà. Est-ce que c'est bien, j'ai bien compris? Bon. Alors, quelle est la question qui vous vient peut-être à l'esprit, mais enfin je la devine. Mais alors c'est tellement clairement écrit ici, comment font les rabbins qui disent que qu'est-ce qu'ils font avec ce livre? Hein? Réponds. Hein? Comment? Quelle tradition? Ça c'est une braïda. Oui, justement. Qu'est-ce que ça veut dire maintenir une tradition par rapport à ce qu'il y a écrit?
En général, les rabbins répondent qu'ils sont en guerre, qu'ils sont pas.
Le temps d'exil nécessaire. C'est une réponse possible. Enfin, on va discuter. Mais en tout cas, ma réponse, c'est que c'est à eux qu'ils vont poser la question. Bon. Alors, je continue avant d'aborder précisément à la discussion de cette réponse éventuelle. Mais je voudrais vous rendre attentif à quelque chose, je ne sais pas si vous allez comprendre l'argument, mais enfin, je pense quand même. Ça, c'est le Talmud de Babel. Or, c'est-à-dire, c'est le Talmud de la communauté de l'exil, de la dispersion, qui n'a pas voulu revenir en Eretz Israël avec Ezra. Ce texte, ce n'est pas une discussion qui est dans le Talmud de Jérusalem, parce que c'est un texte féroce contre les gens de Babel, c'est-à-dire de Chicago. Et ça s'appelle Brooklyn. Et puis, mais ce texte se trouve dans le Talmud de Babel. Qu'est-ce que ça signifie ?
Déjà, à cette époque, il y avait des appels pour.
Non, ça, c'est déjà. C'est pas la réponse que j'attends. C'est l'honnêteté des Talmudistes de Babel. Et ils nous donnent un enseignement qui est contre leur position. Okay ? Ça veut dire si on rencontre un Talmudiste malhonnête, c'est qu'il n'est pas Talmudiste. Malhonnête, il est sûrement. Vous voyez ce que je veux dire ?
De toute façon, s'ils expriment, s'ils développent
cette idée, pourquoi ne rentrent plus ? Dans tous les cas, oui. Bon, ça, Marie a donné la réponse. C'est la thèse officielle. On attend le Messie. Bon, on avance, parce que sinon, on risque de perdre trop de temps. Mais c'est justement dans ce texte-là qu'il y a les signes, l'indication des simanis, des signes par lesquels se diagnostique la fin. Qu'est-ce que vous avez ce soir comme étude ? Rien, personne ? Alors, j'en ai une minute. Alors, la vraie État elle-même va objecter sur son propre argument. On continue ? Bon, jusque-là, ce verset-là, vous étudierez vous-même le contexte, la référence est Rachid sur ce verset. Alors, la vérité est le même objet. Suivez sur texte. N'écrivez pas. Si vous avez une tête avec une mémoire dedans, ça va. Sinon, vous ne pouvez pas écrire. Alors, on recommence. Et ensuite. Vechol hadar, vechol she'eno dar ba'aret, seno eloka. Est-ce que ça voudrait dire que tout celui qui n'habite pas en Eretz Israël n'a pas de Dieu ? Quel est le sens de l'argument ? Et les autres peuples qui n'habitent pas ici, est-ce qu'ils n'ont pas un Dieu ? Est-ce que Dieu ne s'occupe pas d'eux ? À travers la médiation particulière qui les concerne, mais c'est ça leur Dieu. Vous suivez, vous comprenez bien maintenant ce que j'ai expliqué là. Okay ? L'argument a été formulé comme si quelqu'un, un juif, qui n'habite pas en Eretz Israël, n'a pas de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il n'habite pas dans le pays. Alors, c'est-à-dire que tous les hommes qui n'habitent pas dans le pays n'ont pas de Dieu, et les Goïm qui habitent chez eux, ils ont leur Dieu. Vous suivez ? Et vous comprenez que ça veut dire les dieux des autres. Okay ? Je pense que c'est clair pour tout le monde. Alors, objection, Véchi, Vécholadar, Bechutzalaret, Véchol, Chehénodar, Baaret, Ello Eloka, réponse, Ella. C'est donc pour nous enseigner, l'Omar Lecha, pour te dire, Kolhadar, Bechutzalaret, tout celui qui habite en dehors du pays, Keilu, Oved, Avodat, Kochabi. C'est comme s'il est idolâtre. Et donc, c'est encore beaucoup plus grave. La première formulation de la Mishnah, on pourrait l'interpréter en langage contemporain, tout celui qui est en Eretz Israël est comme s'il était religieux. Tout celui qui est en dehors d'Eretz Israël est comme s'il était athée. Comme celui qui a un Dieu, comme celui qui n'a pas de Dieu. Okay ? Qui pense, même s'il pense qu'il est athée en Eretz Israël, la Gemara sait qu'il est religieux. Et celui qui pense qu'il est religieux en Israël, la Gemara sait qu'il est athée. Ça, c'est la première formule. C'est clair ? Donc, la deuxième formule est plus grave. Athée, c'est rien. Maintenant, voilà qu'il est idolâtre. C'est pire. Athée par rapport à idolâtre, enfin, en tout cas, c'est un problème. Qu'est-ce qui est pire ? La peste ou le choléra ? Enfin, vous vous souvenez ? Non, c'est une paracha pour elle-même. Qu'est-ce qui est plus grave ? Être athée ou idolâtre ? Réponse. Ça c'est bon. J'ai mangé du poisson aujourd'hui. Tu n'as pas mangé de poisson, tu n'as pas compris. Bon, alors on continue. Vechel, Ziet, Vechel, Bedavid. Et c'est ce qu'on apprend à propos de David, le roi David. Vous remercie. Le verset dit, quand à un certain moment David a été en guerre contre le roi de Aram, et le roi de Aram, les armées du roi de Aram, avaient obligé David à sortir du territoire d'Israël. Alors David se plaint dans un verset en disant ceci. Car ils m'ont expulsé, exilé aujourd'hui. Mais istaper benachalat Hashem, on m'empêchait de me tenir à le héritage de Dieu, c'est nachalat Hashem, c'est-à-dire l'héritage d'Israël. Les mots en disant l'er avod elokim acherim, va adorer des dieux étrangers. C'est-à-dire expulser quelqu'un du pays, ça veut dire lui dire va adorer des dieux étrangers. Alors la braïta objecte. Vechi mi amar lo le David l'er avod elokim acherim. Mais en fait, qui a dit à David, va adorer des dieux étrangers? On lui a dit, tu seras exilé. C'est clair? L'objection, réponse, El Alomarecha, c'est donc pour s'enseigner, Kolada, Bechut, Laaretz, Keilu, Obed, Oda, Kochavi, que tout celui qui habite en dehors des règles d'Israël, pour quelque raison que ce soit, déporté, exilé, c'est comme s'il était idolâtre. Point. Voilà la fin de la loi. Alors, quel est le thème général? Il y a donc ici un enseignement qui nous montre l'extrême gravité, la relation à Dieu pour un juif. Je dis juif, mais ça vaut déjà pour les Hébreux, puisque ce verset est au niveau d'Israël, les Hébreux, dépend de l'endroit où on habite. Bon, vous savez assez de choses pour déjà comprendre un peu le sens de cela. Mais bien évidemment, une telle formule, pour un homme moderne, on n'arrive pas à comprendre. C'est déroutant. Qu'est-ce que ça veut dire que le fait que j'habite ce paysage, ma relation à Dieu est cachère, ou si j'habite un autre paysage, elle n'est pas cachère? Mais vous comprenez pas. Le Créateur a créé tout l'univers. Mais il y a une répartition des identités de la créature, et tous les paysages, il y a des médiations entre le Créateur et tel ou tel niveau de la créature. Ces médiations implique les comportements des lois naturelles régies par les influences cosmiques, vous rappelez de cela, les mazalot, sauf Eretz Israël, c'est le cas particulier où il y a relation directe, pas de médiation. Et donc, un homme d'Israël qui se trouve sous un autre ciel a l'écran du Dieu du pays où il vit entre le Dieu d'Israël et lui. Est-ce que c'est clair? Donc. Bon, dans le. Si vous voulez, que vous compreniez quel rapport il y a, la définition par la nationalité sur la définition par la religion. Est-ce que c'est clair? C'est doux et goût. Et oui, ce sont des problèmes pas uniquement contemporains. Autant où il y a eu précisément, autant de du Beit Sheni déjà, où il y a eu le fait que la communauté de Babel n'ait pas voulu rentrer après les Juifs en Israël et la communauté de Jérusalem, il y a eu cette même controverse. Et le verdict de la Braïta est plus que dur. Ça veut dire que vous n'êtes pas des juifs de l'exil de Babel, vous êtes des idolâtres. C'est clair? Bon. Et alors, vous avez bien compris. C'est-à-dire tout ce texte a eu force de loi pendant les 400 ans du Beit Sheni. C'est-à-dire au temps où effectivement il était évident qu'il y avait souveraineté juive sur la terre d'Israël et que par conséquent, quelles que soient les raisons d'un exil, le temps d'exil était achevé. Il y avait 70 ans d'exil entre le Beit Rishon et le Beit Sheni. Hein. À partir de la fin de ces 70 ans, la partie des juifs revenus avec Cyrus, avec la déclaration Cyrus, a fondé Beit Sheni. Ceux qui ne sont pas revenus ont été dans le cas de cette excommunication de la. De la Braïta. C'est clair? Bon. Voilà donc la première partie qui est, si vous voulez, le point de départ de. Alors, je continue. Est-ce que nous sommes mignons avec moi?
Oui.
Nous sommes mignons. Bon, alors si vous n'avez rien ce soir, que je n'ai pas fini l'étude, à 7h30, disons. Alors on continuera après dîner, mais seulement comme j'ai besoin de dire Kaddish, il faudra qu'on fasse arbitre entre temps. Alors, où est-ce que nous sommes? Vous êtes donc à l'avant-dernière. Ravisa. Ça y est? Alors maintenant, on va nous raconter un maasé. Qu'est-ce que c'est un maasé qu'on raconte dans le Talmud? Qu'est-ce que c'est un maasé? Hein? Oui, un fait. Le mot que je vais éviter, c'est une anecdote. Ce n'est pas du tout anecdotique, mais c'est un fait qui illustre un enseignement. Un récit qui illustre un enseignement. Ravisa. Je vous traduis. Rabbi Zera, et vous situez les personnages de ce maasé, c'est Rabbi Zera et son maître Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda est un des grands maîtres de Babel, et Rabbi Zera son disciple. Alors ce maasé commence par l'indication suivante. Rabbi Zera se cachait de son maître Rabbi Yehuda. Suivez. De Baal et Messac, l'Eretz Israël, parce qu'il voulait monter en Eretz Israël. Rabbi Zera habitait à Babel et était l'élève de Rabbi Yehuda. Rabbi Zera, à un moment, a décidé de faire sa alia, et met ça en araméen, c'est-à-dire l'arabe, en Eretz Israël. Et il se cachait de son maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était pris par un cas de conscience. Il n'avait pas le droit de quitter Babel et son maître pour aller en Eretz Israël sans prendre congé de son maître, qui était son maître. Mais il savait très bien que son maître l'aurait empêché de monter en Eretz Israël. Son maître ne voulait pas qu'on monte en Eretz Israël. Il habitait Babel, Strasbourg. Et alors, il avait une impasse. Il faut qu'il monte en Eretz Israël, mais d'autre part, il faut qu'il aille prendre congé de son maître, mais il ne peut pas, parce que son maître lui dit de ne pas monter, il ne pourra pas monter, et donc, blocage. Et c'est la situation de beaucoup de gens qui ont des maîtres comme ça. C'est clair? Bon. Ensuite, avant d'aller plus loin, je vous expliquerai qui était ce Rabbi Yehuda. Et effectivement, on retrouvera l'indication de Marie tout à l'heure. C'est pas qu'il était contre la Aliyah, et je vous l'expliquerai comment la Gemara nous le montre, mais c'est qu'il pensait que c'était pas le temps. D'accord, Julien? Alors, suivez bien tous ces analyses, parce que vous en aurez besoin un jour. Et avant Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda enseignait, tout celui qui monte de Babel à Eretz Israël, qu'est-ce que ça veut dire être over be'asé? C'est transgresse un commandement positif. Lequel? Qui est indiqué dans un verset de Jérémie, chapitre 27, lorsque Jérémie parle de l'éventualité de la catastrophe de la destruction du Baït Rishon. C'est-à-dire de l'exil qui commence à la destruction du Baït Rishon. Le verset dit ceci: Babela Yuvaou, ils seront amenés à Babel, et Shamaïyu, et là-bas ils seront, Adyom Pokdi Yota, jusqu'au jour où je. Adyom Pokdi?
Le jour où il se souviendra de vous.
Non, c'est Dieu qui parle.
Parce que je le commanderai.
Jusqu'au jour où je commanderai à leur sujet. Okay. Et rappelez-vous qu'il y a deux termes qu'emploient tous les textes, depuis l'origine, depuis l'exil de Jacob, Joseph, etc., pour dire la fin, le moment où Dieu donne le signe de la fin de l'exil, c'est soit Zachor, Dieu se souviendra de vous, par Zachor, ou par Pakod. Dieu donnera Mazé Pkida,
Pakino.
Oui, une consigne. Zahor, c'est pour le temps de Machar Ben Yosef, Pakot, c'est pour le temps de Machar Ben David, ou l'inverse, suivant les contextes, mais dans les deux cas. Quel est le moins important dans ce verset? Voilà ce que dit Jérémie. Ils seront amenés à Babel, et là-bas ils seront jusqu'à ce que je leur fasse signe. Quel est le moins important? J'ai en hébreu, Adyom Pokdi. C'est clair? Bon. Donc, le raisonnement est très simple. Puisque Rabbi Yehuda cite ce verset, et c'est la Gemara qui nous dit que c'est ce verset qui fonde sa thèse qui empêche Rabbi Zera de monter en Eretz Israël. Okay? Puisqu'il cite ce verset, c'est que son raisonnement est le suivant. Nous sommes à Babel parce que nous sommes descendus sur l'ordre de Dieu. Tant qu'il ne nous rappelle pas, nous n'avons pas le droit, même si nous ne savons pas ce que nous faisons à Babel. Vous vous rappelez du thème de la fonction de l'exil. Même si on ne sait pas quelle est la fonction de l'exil, c'est tellement important d'être dans le sens de l'histoire juive. Quand il est dans ce sens-là, c'est ce sens-là. Quand il est dans le sens du retour, c'est le sens du retour. Il ne faut pas se tromper de sens, que on risque de faire échouer l'histoire d'Israël, que tant qu'on n'a pas les signes, on n'a pas le droit de revenir. Ça, c'est la thèse de la Bible. Et vous comprenez tout de suite que si ce verset qu'il a choisi, l'accent est mis sur « ad yom pokdi ». Ça veut dire que sa thèse est que le temps n'est pas venu. C'est clair ? Et c'est pourquoi la Gemara qui enchaîne, et qu'on va étudier plus en détail, parce que c'est ça le notre problème pour nous, va tout de suite nous donner « et voilà les signes ». Est-ce que c'est clair ? Bon. Avant cela, j'ouvre une grande parenthèse. J'ouvre une grande parenthèse qui va vous éclairer tout un grand morceau de ce problème, mais suivez bien. En fait, nous verrons que ce verset que cite Rabbi Yehuda, on va le voir tout de suite dans le contexte de la discussion de Gemara, ne concerne pas les Juifs, les Juifs, l'époque c'était les Juifs, donc ne concerne pas les hommes, mais les kélim, les ustensiles du temple. Dire la menorah, etc. Okay. Donc les kélim du Beit HaMikdash. Nous allons voir que par extension, on peut comprendre que si déjà cette consigne que les ustensiles du Beit HaMikdash restent en exil jusqu'au temps fixé, alors que corollairement, les hommes aussi doivent rester avec ces ustensiles jusqu'au temps fixé. Mais, deuxième parenthèse de ma parenthèse, qui est plus importante. L'empêchement de revenir avant le temps fixé, c'est de revenir en tant que mouvement national. L'expression qui va être employée par la Gemara, c'est en force, prêt à faire la guerre, comme a été le mouvement sioniste contemporain. C'est clair. Seulement, dans tous les cas, la règle était que si à l'échelle individuelle, bien que le temps de l'exil interdise de mettre fin au temps de l'exil jusqu'à Yom Kippour, mais que si à l'échelle individuelle, et ça a été par exemple dans ces 2000 ans d'exil, le nôtre, le cas de façon ininterrompue, je sais que vous avez déjà appris avec Mme Neher, si vous êtes avancé dans ce cours-là, qu'il y a eu habitation par des Juifs d'Eretz Israël de façon ininterrompue. Okay. C'est-à-dire qu'à l'échelle individuelle, quiconque ne supportait plus d'être en exil chez les Goïm, dans leur pays, avait le droit de préférer d'être en exil en Israël sous la domination turque, ottomane, peu importe. Mais à Tibériade ou à Sfat, et pas à ton écoute, pas à Psychologie des gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors pourquoi Rabbi Yehuda empêchera des erreurs ? Première question. Je vais donner toutes les données de la Rabacha. Rabbi Yehuda, qui est le maître de Rabbi Zera, et Rabbi Zera, qui est son élève, doit donc suivre son enseignement. Mais il est clair que la Rabacha est ainsi. Même dans le cas qu'on penserait, Rabbi Yehuda, que le temps n'est pas venu, à l'échelle individuelle, si Rabbi Zera ne supporte plus d'habiter à Babel, et préfère habiter à Ashrem, même avec l'occupation babylonienne, mais pas à Babel chez eux, vous comprenez le problème, à l'échelle du maire, il avait le droit. Pourquoi il l'empêche ? Parce qu'il est rabbin. Enfin, parce qu'il est rabbin Zera. Parce qu'il y a une analogie, dans le langage traditionnel, entre Klé Kodesh, je vais prendre cette expression, les Klé Kodesh, les Klé de la sainteté, c'est quoi les Kodesh? Les ustensiles de la sainteté, c'est les ustensiles du temple. Mais cette expression a tout de suite été étendue aux Kohanim et aux Lévites, c'est-à-dire à ceux qui s'occupent des ustensiles du temple, et donc par extension dans la société juive, au cadre de la communauté. Donc l'argument de Rabbi Yehuda, ce sera de dire à Rabbi Zera, mais toi tu es un des Klé Kodesh. Vous avez compris cela. C'est-à-dire que, à l'échelle individuelle, je devrais te laisser partir, puisque tu ne violes pas la loi en partant individuellement, tu ne pars pas comme sioniste, tu viens comme messianiste, en fait, je ne sais pas comment dire, okay. Seulement, étant donné que tu viens des Klé Kodesh, c'est pourquoi je t'ai cité ce verset. Vous avez compris cela. Bon, alors on apprend déjà plusieurs choses. Quelqu'un qui Et là, il y a un problème d'honnêteté de la vie à Dieu. Quelqu'un qui s'identifie comme quelqu'un d'Eretz Israël, mais en exil, n'est pas dans le cadre de la Braïta. Est-ce que c'est bien clair? Quelqu'un qui s'identifie comme membre d'un Israël de diaspora, qui est chez lui, là où il est chez lui, hein, tombe dans le cadre de la Braïta. Vous voyez la différence? Deuxièmement, parmi ceux qui se considèrent comme Israël mais en exil, ne tombe dans ce cas d'avoir à rester dans l'exil que ceux qui sont véritablement des clérodes au nom d'Israël. Est-ce que c'est clair? Bon, alors ça vous a fait sortir de l'enfer toute une catégorie rabbinicule, déjà. Maintenant, le véritable problème de la discussion entre Rabbi Zera et Rabbi Yehuda, c'est finalement le sujet de notre étude, quels sont les signes par lesquels on diagnostique que Yom Pokti, que la Pekida est arrivée, que le signe est arrivé. C'est clair? Bon. Alors on peut commencer le. Oui?
Si c'est pour ça que beaucoup avaient cru que Cyrus était le signe, parce que comme il avait donné la permission de rentrer, vous pouvez.
Pas cru, Cyrus est considéré comme un Mashiach. C'est dans le prophète Isaïe dans toute l'aide. Et le Thoth, un des descendants de la reine Esther. Bon, alors vous prenez les textes dans la deuxième page. Au début de la deuxième, Rabbi Zera. Alors donc, Rabbi Yehuda avait dit, voilà mon verset, ils seront descendus à Babel et ils resteront jusqu'à ce que je leur fasse signe. C'est clair? Bon. Alors maintenant, la demande, et Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il fait avec ce verset? Alors suivez bien. Alors là vous pouvez commencer à prendre des notes et à mettre en plan les différents arguments, les têtes de colonne, Rabbi Yehuda, Rabbi Zera. Alors je vais dans le plan, mais je veux que vous suiviez sur le texte. Hein. Rabbi Zera. Alors, Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il fait du verset de Rabbi Yehuda? Ahou, klesharet, kti. Pour Rabbi Zera, il n'y a pas de problème. Ça fait partie des klekodesh, que je vous ai appelé tout à l'heure. Klesharet, dit la Gemara, les instruments du service. Hein. Il suffit que Rabbi Zera réponde à son maître, moi je ne me considère pas comme un klesharet, je suis un stam juif, je veux vivre chez moi. C'est clair? Je ne suis pas un chaliar, je ne suis pas en mission. C'est clair? Vous avez bien compris ça? Alors je reviens un peu en arrière pour vous expliquer en vous donnant, d'ailleurs la référence est dans la Gemara de Shabbat, page Shabbat. Attendez que je me rappelle bien si c'est 41A ou 41B. Non, c'est 41B. Mais, alors, dans la page de Némalon de Shabbat, le fait que Rabbi Zera, le Marassé, le fait que Rabbi Zera se cachait de Rabbi Yehuda, nous est raconté de façon beaucoup plus ample, dans un autre contexte. Et je vais vous expliquer ce contexte avec Rabbi Shabbat, cette référence-là, pour vous faire comprendre que Rabbi Yehuda n'était pas du tout, quoi qu'il en soit, dans la position de ses rabbins contemporains aujourd'hui, qui sont contre le sionisme et l'Eretz Israël, et de vivre en hébreu et plus en juif de la Gola. Vous comprenez ce que je dis? Alors voilà, Shabbat commence le récit de la même manière. Rabbi Zera se cachait de son maître Rabbi Yehuda, parce que lui, Rabbi Zera, voulait aller en Eretz Israël, mais Rabbi Yehuda l'empêchait. Et puis finalement, un jour, il a le courage d'aller chez Rabbi Yehuda pour lui dire « Je monte en Eretz Israël ». Ce jour-là, c'était la veille d'un Shabbat. On nous donne d'ailleurs le jour et l'heure exacte, parce que ça correspond un peu à la loi des temps, c'est la fin du sixième jour, avant le septième, vous voyez, parce que... Alors il va donc chez Rabbi Yehuda, et il trouve Rabbi Yehuda dans sa salle de bain en train de se préparer pour Shabbat. Comment dit une salle de bain? En bas. Vous n'avez pas appris déjà? Et alors, il y a ici dans la Gemara un contexte que je vais vous résumer, mais qui est assez étonnant. Et puisque Rabbi Yehuda était dans sa salle de bain avec son charat, comme on dit, c'est pas exactement domestique, mais enfin, celui qui le servait, et il l'entend par la porte lui dire « passe-moi le peigne, passe-moi l'éponge, passe-moi le savon ». D'ailleurs, on ouvre une petite parenthèse, et dit « de là on apprend, et de ce rabbin là on apprend qu'on a le droit de parler l'hébreu dans la salle de bain ». Alors, je vais vous expliquer comment on apprend ça. Premièrement, cette loi du choix, c'est ce qu'on a ouvert. Le Shulchan Aruch a donc codifié. On pourrait croire, il y a des raisons pour ça, que lorsqu'on est dans le bain, on n'a pas le droit de parler l'hébreu et passer la langue sacrée. Mais puisqu'on a appris que quand Rav Zera était allé chez Rav Yehuda pour lui demander la permission de l'Amérique d'Israël, mais que Rav Yehuda ne lui a pas donné, ce jour-là, Rav Yehuda prenait un bain et parlait hébreu dans sa salle de bain. Vous voyez le gamin. C'est quoi? Ça veut dire qu'on veut nous faire comprendre qui est Rav Yehuda. C'est quelqu'un qui parlait l'hébreu même dans la salle de bain. Il ne parlait pas yiddish, il parlait l'hébreu. Vous avez compris tout ? Ça veut dire qu'il était sioniste à un point que l'hébreu, il parlait à Babel, et pas le judéo, je ne sais pas quoi, comme les rabbins anti-sionistes. Qui ne parlent pas hébreu parce que l'hébreu, c'est trop cachère. Pour eux. Vous comprenez ? C'est clair ? Il y a d'ailleurs un autre contexte de la Gemara où c'est... pour que ce soit bien clair, et c'est pourquoi la Gemara de Shabbat, par rapport au problème qu'elle enseigne là-bas, nous raconte ce maasé de cette manière pour nous faire comprendre, ne vous trompez pas sur Rabbi Yehuda. C'est pas quelqu'un qui va vous dire qu'il faut pas aller en Eretz Israël. Lui pensait qu'il faut aller en Eretz Israël. La preuve, il voulait se sentir en Eretz Israël, même dans sa baignoire. Et alors, pour lui, grâce à lui, à cause de lui, on a permis de parler l'hébreu dans la baignoire. Okay. Est-ce que c'est clair? Mais il pensait que ce n'était pas le temps. Et si ce n'est pas le temps, c'est imprudence, catastrophe, faux messianisme, etc. Vous avez compris le problème. Parenthèse dans la parenthèse, oui, mais à l'échelle individuelle, Rabbi Zera avait le droit quand même de rentrer chez lui, pas comme mettant fin à l'exil, mais d'habiter en Eretz Israël, malgré la malédiction de l'exil. Okay. Mais Rabbi Yehuda pensait qu'il avait besoin de lui. Ça y est, c'est clair. Oui, comment ça se dit? Voilà. Alors, le Gemara dit, qu'est-ce que Rav Zera fera du verset de Rav Yehuda? Il dit, ben, ça concerne ce qui est dans le contexte, les clés charrettes, les ustensiles. Mais Rav Yehuda, il sait très bien que ça concerne les ustensiles. Mais il interprète les ustensiles et ceux qui s'en servent. Vous voyez? C'est clair? Bon, alors je continue. Alors, si Rav Yehuda lui dit, ben, toi, tu interprètes les ustensiles et ceux qui s'en servent, mais moi j'ai le droit d'interpréter que les ustensiles. Mais encore une fois, je veux que vous compreniez, ça veut dire, c'est pas que je vais décider la fin de l'exil, je veux moi rentrer à Sfat ou à Tibériade ou à Jérusalem. Okay? Et par conséquent, ton verset ne m'empêche pas. Alors, elle m'a arrivé Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, à cette réponse, qu'est-ce que lui va répondre, Rabbi Yehuda? Vous suivez? Alors, Rabbi Yehuda, Ktiv Kra Aharina. Pour Rabbi Yehuda, il est écrit un autre verset. Alors, vous allez tout de suite noter un certain nombre de références et que je vous demande vraiment d'étudier par vous-même. C'est un verset qui se trouve trois fois, sous une forme un petit peu différente chaque fois, un verset qui se trouve trois fois dans le Shir HaShirim. Alors, il se trouve au chapitre 2, verset 7. Qu'est-ce que le Shir HaShirim? Le okay. Il se trouve au chapitre 2, verset 7, au chapitre 3, verset 5, et au chapitre 8, verset 4. Donc voilà ce que dit ce verset. Et vous avez pris un tanar, comme il dit. Alors ouvrez à la première référence, c'est-à-dire au chapitre 2, verset 5. Jusqu'à ce que le feu vert soit donné, convocation au mariage. C'est clair? Alors, Vera Bezera, on suit. Vera Bezera, Vera Bezera, qu'est-ce qu'il va faire de ce verset de Shir HaShirim? Il a pleuré. Maintenant, Tu as pu avoir l'âge?
Elle était là. Ah,
elle était là. Où elle était?
Dans le monde.
Qu'est-ce qu'il va faire maintenant de ce deuxième verset de Rabbi Yehuda? Ça y est, ça s'organise? Bon. Alors, réponse de Rabbi Zera, Haou, pour Rabbi Zera, pour lui, Shelo Ya'alou Israël Bechoma. Ça veut dire, c'est ce verset qui indique qu'il ne faut pas monter Bechoma. Choma, littéralement, ça veut dire une muraille, comme une muraille. Qu'est-ce que ça veut dire comme une muraille? Ça veut dire en force. Alors vous allez bien noter l'élucidation de cette première catégorie. Le fait, et je me base sur l'ensemble des commentateurs, mais en particulier sur Rashi que vous vérifierez sur le. Premièrement, de monter en grand nombre, c'est-à-dire à l'échelle nationale, et en force, prêt à monter sur la muraille pour protéger Jérusalem. Vous comprenez? Prêt à faire une muraille à Jérusalem. C'est-à-dire en mouvement national. Vous comprenez bien l'interprétation? C'est clair? Alors, Rabbi Zera répond, ça, ce verset, je connais, tu nous as enseigné d'ailleurs, et tu sais très bien que ça veut dire cela. Quand Dieu demande à Israël, dans ce verset de Shir HaShirim, ne rêvez pas à l'amour avant qu'elle ne le veuille, c'est ne revenez pas à l'exil en mouvement collectif, en mettant fin à l'exil, et prêt à faire la guerre, je vous formule tout de suite en termes de la réalité du mouvement sioniste contemporain. Ce qu'a fait le mouvement sioniste, mais moi, à l'échelle individuelle, j'ai le droit. Voilà ce qu'il veut dire. Ça va? Maintenant, on va y sonner un premier signe. Le premier signe du temps de la fin de l'exil, c'est quand Israël revient Kerhoma. C'est-à-dire, je mets plus l'accent en force, prêt à faire la guerre, qu'en foule, mais ça veut dire en foule, mais littéralement c'est comme une muraille. Et je voudrais que vous remarquiez une chose. Il y a eu une autre période contemporaine. Ici, l'étude est faite par rapport à la fin du deuxième exil, de l'exil de Babel, c'est clair. Hein? Par rapport à l'époque contemporaine, il y a eu des époques, il y a eu des mouvements messianistes, où il y a eu des mouvements de Aliyah, mais ça n'a jamais été avec la capacité d'être prêt à faire la guerre contre le monde entier, si jamais le monde entier ne fait la guerre. La seule occurrence historique où ça se réalise, c'est la nôtre. Est-ce que c'est clair? Vous comprenez le problème?
Donc c'est après coup qu'on se rend compte que c'était...
Non, pas après coup. Ça veut dire, quand le temps est arrivé, alors on a le droit de venir comme ça. Ok? Bon, maintenant nous viennons aussi quand. C'est comme ça qu'on est venu, et c'est a posteriori qu'on a été obligé de faire les guerres. Okay? Mais nous, pour nous, notre génération, c'est a posteriori. La génération des fondateurs, il y a 50 ans, c'est a posteriori de rien du tout. Ils sont venus pour venir. Ils vont venir. Mais ils sont venus décider que s'il faut se défendre, on se défend. Okay? C'est-à-dire qu'il faut faire une brèche dans la muraille. Il y a une muraille qui nous empêche d'arriver en Eretz Israël, il faut forcer la muraille. Et on reprendra après les arguments, une fois que vous avez vu les 6 plus le 7e, mais je reviens à notre problème. Qu'est-ce que ça veut dire prêt à faire la guerre? Et c'est un des principaux arguments des religions antisionistes. On attend le Messie qui nous donnera Eretz Israël, et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait comme les Goïms, vous faites la guerre pour avoir Eretz Israël. Or, j'en profite pour vous ouvrir une parenthèse, peut-être que j'ai fait allusion au début de l'année. L'objection des goïms aujourd'hui, et par exemple de l'ONU, okay, c'est que les sionistes se conduisent comme des colonialistes, des impérialistes, c'est-à-dire une guerre de conquête. Qu'est-ce que c'est impérialisme, colonialisme? C'est sortir de chez soi pour conquérir le pays de quelqu'un d'autre. Or, qu'est-ce que c'est le mouvement sioniste? C'est revenir chez soi, même prêt à faire la guerre contre les occupants du pays. C'est tout le contraire. Est-ce que vous comprenez le problème? Bon. Seulement, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est la manière dont ces guerres se sont faites. Et alors, on revient. Vous allez prendre un livre de Bereshit. Donne-moi les deux. Donc on est aussi avec Rachid. Je suis dans la chacun du moment.